RCF. Coup d'avance, le magazine d'un territoire innovant proposé par RCF en partenariat avec la ville de Saint-Étienne. Saint-Étienne change le monde avec design, avec créativité, avec innovation, avec passion. Chaque semaine, découvrez les entreprises qui font la richesse de notre territoire.
Les Titanides, c'est le nom de cette toute jeune maison d'édition stéphanoise dédiée au monde de l'imaginaire. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Élodie Lyonnais, qui est une de ses fondatrices et qui vient nous parler de la naissance de cette nouvelle structure, de ses enjeux et de son développement. C'est Coup d'avance sur RCF Saint-Étienne. Merci à Emmanuel Bussière pour la réalisation technique. Bonjour Élodie Lyonnais.
Bonjour.
Bienvenue. Alors, les Titanides, expliquez-nous qu'est-ce qui se cache derrière ce nom.
Alors, en vérité, il ne se cache pas grand-chose. Enfin, les Titanides, de base, sont les sœurs des Titans dans la mythologie grecque. Quand on cherchait un nom pour notre maison d'édition, on a passé un après-midi entier à chercher des noms qui nous paraissaient assez épiques pour vraiment ressembler à ce qu'on voulait, pour marquer aussi justement les gens. On a beaucoup regardé les noms des étoiles, notamment des constellations, et finalement, à force de cheminement dans la mythologie, on est arrivé aux Titanides.
Donc si on revient sur la naissance de ce projet, je crois que vous êtes trois fondatrices de cette maison d'édition.
C'est ça, exactement. Il y a aussi du coup mes deux collègues, Adèle Ferré-Carsalad et Marion Rignot, qui est était également en fait en étude avec moi à Toulouse, et donc on a formé ce projet toutes les trois ensemble.
Ce projet est né donc il y a de longues années, si je comprends bien, il a mûri. Vous avez eu un parcours professionnel, et d'ailleurs vous êtes toujours aujourd'hui assistante éditoriale, hein, que je dise pas de bêtises, aux éditions Corroy.
C'est ça.
Et donc vous menez ce projet en parallèle.
C'est ça, exactement. En fait, pour être complètement franche, on n'a pas les moyens à ce stade de simplement quitter nos boulots pour se lancer dans cette aventure. C'est pas une aventure qui peut payer assez dans les premiers temps.
Donc, oui, c'est compliqué d'en vivre aujourd'hui.
C'est ça. Surtout une petite maison d'édition qui se lance dans le milieu de l'imaginaire qui a quand même ses grands noms déjà. Je pense à La Talente, je pense à Brajlon. C'est difficile en fait de se dire qu'on va en vivre directement, surtout qu'en plus on est trois. Donc effectivement, on a toutes les trois un travail à côté.
Et vous arrivez à mener du coup de front votre vie professionnelle et puis ce projet. Alors qui est né il y a combien de temps? Il y a 3 ans, je crois.
C'est ça. En fait, la structure juridique a vraiment été créée en 2021. Et notre premier livre est sorti 7 octobre en 2022.
Première parution l'année dernière. On reparlera de tout ce parcours du livre dans votre structure. Mais dans le montage de ce projet, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu les grandes étapes clés?
Oui, alors au départ, vraiment la première chose qu'on a fait, c'est qu'on est allé regarder sur Internet comment vraiment créer une entreprise, tout simplement. On a aussi fait appel à un livre qui s'appelle « Comment créer une maison d'édition » du Dr Watson, qui nous a pas mal aiguillés. Et enfin, on a eu beaucoup de chance parce que, en fait, mon père est comptable, travaille dans une entreprise où il y a également des conseillers juridiques. Et c'est grâce à eux qu'on a pu donc déterminer quel statut juridique nous allions avoir. Et c'est eux qui nous ont accompagnés sur toutes les procédures administratives en fait qu'il y a à faire pour créer l'entreprise en elle-même.
Est-ce que vous avez été confrontée à des difficultés particulières? C'est parfois le parcours du combattant quand on lance une activité.
Oui, alors c'était pas des grosses difficultés. C'est simplement plein de petits papiers d'administration qui ont fait qu'il y a eu quelques décalages aussi pour les statuts.
Par rapport à vous, la date à
c'est
laquelle
ça.
Vous espériez pouvoir lancer votre structure.
On a mis plus de temps, mais c'est aussi parce qu'on voulait faire les choses vraiment bien. Il y a aussi le fait qu'on n'habite pas dans les mêmes villes, toutes les trois. Donc, pour les statuts juridiques, ben, rien que le fait de les signer, en fait, il a fallu attendre.
Ah, donc vous êtes stéphanoise et vos autres collègues fondatrices
C'est ça, sont ailleurs. Alors, Adèle est à Toulouse et Marion est à Lyon.
Aujourd'hui, de toute façon, on peut travailler à distance sans aucun souci.
C'est très facile. On est toutes les trois liées. On essaye de se faire des réunions vraiment en visio au moins une fois par semaine parce que c'est quand même plus facile d'échanger directement à l'oral. Mais sinon, tout passe par l'écrit très facilement.
Alors aujourd'hui, comment on se différencie, comment on se lance dans ce monde de l'édition, notamment sur la Loire, c'est un secteur très dynamique où ces dernières années, pas mal de maisons d'édition ont pu voir le jour. Comment vous vous positionnez et comment on fait sa place dans un environnement finalement assez concurrentiel?
C'est un peu complexe parce que en fait, c'est pas tant la maison d'édition en fait qui se différencie, c'est vraiment un livre. Chaque livre va être différent, chaque livre peut toucher un public légèrement différent. Par exemple, le premier livre qu'on a sorti, Séance de spiritisme, on avait en tête spécifiquement de faire un livre de l'imaginaire que même les personnes qui généralement ne lisent pas ce type de livre puissent apprécier et puissent vraiment aimer. Je pense que le mieux, en fait, c'est de ne pas voir justement les autres maisons d'édition forcément comme des concurrents, parce que finalement, voilà, chaque livre est différent. Les lecteurs ne font pas aussi tous forcément attention à la maison d'édition elle-même. Il y a beaucoup de lecteurs qui sont attirés par un résumé, qui sont attirés par une couverture, et qui ne vont pas forcément faire attention à qui a publié l'ouvrage au départ.
Donc finalement, il y a de la place pour tout le monde.
C'est ça. Alors après, forcément, quand on est plus petit, c'est beaucoup plus compliqué parce que quand on est une grande maison d'édition, on a un distributeur qui a déjà fait tous les contrats avec les librairies. Il y a des livres, les Musso, les Lévy, vous les verrez dans toutes les librairies dès leur sortie, il n'y a aucun problème. Nous, ça ne marche pas du tout comme ça parce que les libraires ne nous connaissent pas. Il faut réussir à se faire connaître par les lecteurs. Et ensuite, il y a un côté de démarchage, on va dire, avec les libraires, qui est un peu plus complexe parce que ben, c'est du commercial et que c'est pas forcément
notre
cœur de métier de base.
Qu'est-ce que vous vous êtes fixé comme objectif pour le lancement ces premières années?
En termes de vraiment publication, comme effectivement ça ne peut pas être notre métier principal pour l'instant et que on n'a pas non plus des fonds immenses. On veut d'abord publier un livre par an, au moins sur les trois prochaines années. Et après, on espère effectivement pouvoir augmenter le nombre de publications, passer à deux, trois publications par an, voire plus tard, dans le lointain futur, 10 publications par an, par exemple. Ça serait l'idéal. Mais ça demande du temps et de l'argent.
Vous pourriez en vivre à partir de combien de publications vous arriviez à pouvoir quitter vos autres emplois?
Alors c'est très complexe ça de savoir parce que ça dépend vraiment des ventes des livres, beaucoup. C'est pas une réponse très, très claire, mais oui, beaucoup.
Coup d'avance, le magazine de l'innovation dans la Loire, RCF.
Nous sommes toujours avec Élodie Lyonnais, qui est une des fondatrices des Titanides, une toute nouvelle maison d'édition sur la Loire. Alors, Élodie Lyonnais, vous nous avez parlé beaucoup de la création et du parcours de cette nouvelle maison d'édition. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du parcours du livre, finalement? Comment il arrive chez vous? Un texte, j'imagine, au départ, avec une sélection jusqu'à sa diffusion.
Oui, bien sûr. Alors, nous, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on lance des appels à textes, généralement sur une collection précise ou quelques collections précises. On a un délai, on va dire, entre 4 et 6 mois pour laisser quand même le temps aux auteurs de voir l'appel, de prendre le temps d'y répondre. À partir de ce moment-là, ce qu'on fait, c'est que on commence à lire les manuscrits, on voit ceux qui nous interpellent tout de suite, notamment au niveau Nous, on demande un synopsis, en fait, du livre pour avoir déjà, en fait, une idée générale du roman.
Un synopsis, alors, c'est un
C'est une sorte de résumé de tout ce qui va se passer dans le roman. C'est pas juste une quatrième de couverture qui ne vous dit que les prémices. Là, c'est vraiment, ça déroule les événements du livre pour que nous, on ait une idée générale, en fait, de ce que va parler le roman. Donc, on a une première sélection à ce niveau-là, déjà. Et ensuite, effectivement, on va vraiment lire les romans qui nous ont interpellés comme il faut. Si on est vraiment convaincu, on va contacter l'auteur pour savoir si, déjà, entre-temps, il n'a pas reçu d'autres propositions.
Oui, parce qu'un auteur, finalement, lui, j'imagine, envoie ses textes à plusieurs maisons d'édition.
Je pense qu'il doit avoir des auteurs qui ciblent des maisons d'édition bien particulières. Mais généralement, le mieux pour un auteur, c'est d'envoyer au plus de maisons possible parce qu'il y a tellement de manuscrits, il vaut mieux
se donner toutes les chances.
Se donner toutes les chances, voilà, exactement.
Et comment vous fonctionnez pour cette sélection, finalement? Vous avez un comité de lecture, de sélection?
Alors, le comité de sélection, c'est nous trois. C'est aussi l'avantage d'avoir notre maison d'édition, c'est qu'on peut vraiment publier, surtout là, dans les tout premiers, publier ce qui nous plaise vraiment, à la fois en tant qu'éditrice et à la fois en tant que lectrice, du coup.
Oui, parce que comment, en lisant un texte, vous allez réussir à détecter, finalement, le livre à succès, enfin, qui va plaire, j'imagine, au plus grand nombre?
C'est un peu compliqué aussi parce que on peut pas être complètement objectif. Il y a forcément nos propres opinions de ce que nous, on considère être de très bonnes lectures, ce qui nous plaît dans l'imaginaire qui rentre en jeu. C'est très compliqué de déterminer si un livre va avoir du succès ou pas, en fait. Parce que les goûts des gens sont tellement différents. On peut jamais vraiment être sûr à 100% que le livre qu'on publie va plaire.
Donc vous avez des critères de sélection ou c'est vraiment de l'intuition finalement?
Il y a beaucoup d'intuition. Après, forcément, il faut que déjà l'histoire se tienne. On regarde quand même beaucoup, il faut dire ce qui est, si c'est bien écrit, parce que on reçoit quand même certains livres qui, structurellement parlant, au niveau français, on sait tout de suite qu'il y aurait beaucoup trop de retravail derrière et que même si l'idée de base est sympathique, on ne peut pas publier dans l'état ce type de manuscrit.
Parce qu'il y a un travail de réécriture finalement dans...
Alors ça dépendra des maisons d'édition. Nous, c'est un peu le parti qu'on a pris parce qu'on a vraiment envie d'avoir une vraie relation avec l'auteur, une vraie relation avec le manuscrit. On a conscience que comme on est une jeune maison d'édition, on risque d'attirer des jeunes auteurs, donc qui potentiellement n'ont pas d'expérience éditoriale précédente. Donc oui, on essaye au maximum si on voit que on aime vraiment beaucoup un roman, mais que par exemple avoir une scène en plus ici, ça pourrait vraiment fonctionner, ou au contraire, il faut retravailler certains moments clés pour que vraiment, quand le dénouement arrive, tout le monde est vraiment happé et tout le monde a bien compris ce qui se passait. Mais oui, on guide l'auteur à ce niveau-là. On prévient l'auteur en amont, avant de signer le contrat, des points que nous, on retravaillerait. Parce qu'il y a aussi des auteurs qui ne veulent pas retoucher à leur roman, ils l'ont fini, il est comme ça, il leur plaît comme ça. C'est complètement leur choix, c'est complètement...
En tout cas, c'est valide. Votre fonctionnement
voilà.
Mais
nous,
d'avoir
en tout
ce
cas,
rôle.
C'est ça, on essaye d'avoir un vrai rôle d'accompagnement, en plus de simplement corriger faute d'orthographe, de conjugaison, et mettre ça en page et envoyer à l'imprimeur.
Donc il y a cette première phase, en tout cas, de sélection, que vous menez toutes les trois, finalement, ensemble. Ensuite... Quelle est la suite du parcours, finalement?
Alors, on rencontre l'auteur, puisque justement, comme on veut avoir un vrai travail d'équipe, si on ne s'entend pas avec l'auteur, on sait qu'on n'arrivera pas forcément à travailler ensemble. Si l'auteur est d'accord, donc il signe le contrat d'édition. Et ensuite, il aura une interlocutrice principale. Là, on ne sera plus toutes les trois dessus, parce que c'est beaucoup trop compliqué sinon. Donc, il y a une éditrice principale qui va donc faire ce travail avec l'auteur, de réécriture, de retravail du roman si besoin. Et ensuite, on passe, alors, différentes étapes. Derrière, il y a le nettoyage du texte qui permet en fait de commencer à styler, c'est très technique, mais commencer à styler en fait tout ce qui est paragraphe, titre.
Sur la mise en page, vous
sur la mise en page, voilà. On a donc tout ce qui est vraiment correction orthographique, conjugaison. Et ensuite, effectivement, il y a la vraie mise en page sur des logiciels de mise en page spécifiques.
C'est vous qui prenez en charge ça ou vous travaillez avec peut-être un graphiste ou un...
Alors ça, c'est nous pour l'instant. On a quand même, avec nos études,
cette compétence-là.
Cette compétence. Alors, c'est une vraie compétence. Je ne veux pas... Il y a des gens sans doute qui sont extrêmement compétents et beaucoup plus compétents que nous. C'est pareil, on a eu de la chance, comme on est dans le milieu, d'avoir des gens qui nous ont vraiment guidés pour notre première maquette, pour qu'on puisse avoir quelque chose de très propre, de très professionnel. Le mieux, c'est toujours d'avoir un graphiste qui le fasse. Nous, on a fait ça aussi pour des questions de coût. Il y a seulement sur la couverture, on a fait appel effectivement à une graphiste.
La couverture, c'est un vrai sujet, ça aussi. C'est souvent ce qui interpelle, ce qui donne envie de lire.
Exactement, et c'est pour ça qu'on a mis les moyens vraiment pour payer une graphiste pour la couverture. Parce que, alors, autant une maquette de livre, c'est tout de même assez classique. Une couverture, il faut qu'elle soit belle, il faut qu'elle soit travaillée, il faut le talent vraiment d'un graphiste, de quelqu'un d'artistique. Pour vraiment que ça marque les gens.
Donc votre livre est prêt, on va dire, retravaillé, mis en page, vous avez une belle couverture. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Impression, version numérique?
Alors, du coup, oui, effectivement, l'impression et la version numérique se font plus ou moins simultanément, puisque la version numérique naît directement de la maquette qui est prête pour l'imprimeur. Donc on imprime, on reçoit les livres, on vérifie que tout fonctionne bien pour les livres. Et ensuite, alors nous, du coup, on a un double système. Les gens peuvent acheter le livre directement sur notre site internet. Et il y a effectivement aussi la possibilité de les retrouver en librairie. Pour l'instant, c'est beaucoup des lecteurs qui vont dans leur librairie, qui disent « j'aimerais tel livre ». Le libraire nous le commande directement à ce moment-là.
Comment ça se passe? Il y a un fichier finalement qui répertorie tous les livres auxquels les libraires ont accès et peuvent vous faire des commandes.
Oui. En fait, il y a un grand intermédiaire qui s'appelle Dilicom. Dilicom est avec Electre. Ce sont donc deux grandes entreprises qui ont un grand fichier. Et en tant qu'éditeur, on peut répertorier notre livre. Donc ça, c'est une première étape. Et ensuite, avec Dilicom, si on est inscrit en tant que distributeur, les libraires ont aussi directement accès à nos coordonnées pour les commandes de livres.
Et sur la partie alors édition papier, comment on estime à combien d'exemplaires on doit tirer un livre?
Alors, ça dépend de ses moyens de base, ça dépend de... si vous êtes un musso, vous savez tout de suite que vous pouvez tirer, que sais-je, de millions parce que ça va se vendre. Nous, on est une petite maison, on a tiré, là, pour vous donner un ordre d'idée, notre premier livre a été tiré à 500 exemplaires. On avait prévu 300 au départ, on s'est dit que finalement, surtout avec les coûts de l'impression en ce moment, il valait mieux tirer un peu plus et ne pas avoir besoin de faire un réassort si le livre se vendait très bien.
Et la partie numérique, je ne me rends pas compte ce que ça peut représenter.
Alors pour nous, pas grand-chose pour l'instant, très honnêtement. J'ai pas l'impression que ça soit, en tout cas, le cœur du marché. C'est vrai qu'on est, au niveau papier, on est avec la FNAC, donc ça nous a donné une petite visibilité. Au niveau numérique, notre livre numérique n'est vraiment disponible que sur notre site pour l'instant. Donc forcément, ça lui donne aussi moins de visibilité par rapport au livre papier.
Et alors, sur les 500 ouvrages que vous avez tirés, à combien de ventes vous en êtes aujourd'hui?
Alors, j'ai pas le chiffre exact, mais on est à plus de 160, ce qui est un bon nombre.
Pour un premier ouvrage.
Pour un premier ouvrage, c'est plutôt pas mal, on est plutôt contente.
Quelles sont les prochaines étapes alors? Est-ce que vous avez de nouveaux manuscrits en cours?
Alors là, du coup, nous, on est en train de travailler sur celui qui sortira en octobre 2023. On a fait aussi un appel à texte qui, pareil, est en cours pour sélectionner le livre qui sera en 2024.
Est-ce qu'on fait un appel à nos auditeurs qui auraient un talent d'écriture?
Ah, mais avec plaisir.
Quel message vous aimeriez leur passer pour leur donner envie de vous transmettre leur texte?
Du coup, en ce moment, on est en train de rechercher un livre pour notre collection Mnemosyne, qui est notre collection de fantasy. Donc, si les auditeurs ont des livres qui correspondent à ce monde de la fantasy, on les accueille avec plaisir.
Et en attendant, on peut découvrir votre premier roman, Séance de spiritisme chez Madame Constantin, directement sur votre site Les Titanides. Merci Élodie Lyonnais.
C'était Coup d'avance, le magazine d'un territoire innovant proposé par RCF en partenariat avec la ville de Saint-Étienne. Saint-Étienne, ville UNESCO de design et labellisée French Tech, Design Tech, cultive ses talents.